Bonjour, pour la Bibliothèque théologique, aujourd'hui je vous propose un livre de Jean-Marie Ploux, PLOUX, intitulé « Écoute la lumière », sous-titre « Une lecture des paraboles de Jésus », et c'est publié aux éditions Salvator, qui publie assez régulièrement des livres toujours d'un grand intérêt. Ce livre ne date pas de cette année, puisque je l'ai retrouvé là dans ma bibliothèque. En fait, il date de 2021, mais néanmoins, c'est un livre qui me semble tout à fait intéressant. En fait, il s'agit d'un commentaire des paraboles de l'Évangile, et tout y passe, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de paraboles dans l'Évangile. On connaît, bien sûr, la parabole du semeur, la parabole du bon samaritain ou des talents, mais en fait, il y a des dizaines et des dizaines de paraboles, certaines longues, comme celles que j'ai évoquées, et d'autres très courtes, qui font une ligne, un verset, mais qui ne sont pas pour autant sans intérêt. Alors Jean-Marie Ploux est un prêtre de la Mission de France, il est théologien, il a écrit de nombreux livres qui commentent l'Écriture, et il nous donne là un livre sur l'ensemble des paraboles, qui est extrêmement accessible, c'est-à-dire qu'il donne une lecture des paraboles qui est tout à fait sage et consensuelle, dirais-je, ça correspond à la lecture qu'on en fait habituellement, mais néanmoins on trouve ici et là, au détour des pages, des idées extrêmement originales et intéressantes, et j'avoue que même moi qui prétendais bien connaître les paraboles et n'avoir pas grand-chose de nouveau à en apprendre, eh bien j'ai trouvé un certain nombre de points qui m'ont semblé particulièrement intéressants et originaux. Évidemment que Jean-Marie Ploux a cette idée sur les paraboles qui est partagée par la plupart des grands exégètes, que les paraboles ne sont pas des illustrations d'une morale. D'ailleurs, il ne semble pas pour Jean-Marie Ploux que l'Évangile soit une morale en quelque sorte, mais c'est plutôt un chemin de conversion pour aller jusqu'au royaume de Dieu. Et donc les paraboles ne sont pas des illustrations d'une morale comme pourrait être par exemple les fables de La Fontaine. Les fables de La Fontaine, il y a un message et puis on trouve une histoire concrète qui illustre ce message. Là, les paraboles ne fonctionnent pas comme ça. Les paraboles sont des comparaisons, certes, mais le message en lui-même n'est pas évident. Et on pourrait même dire que les paraboles n'ont pas un message unique, mais ont pour mission de faire réfléchir le lecteur et de l'amener dans une situation de questionnement. Et que c'est par le questionnement que l'on peut avancer spirituellement et que l'on peut découvrir Dieu, et qu'est-ce que Dieu peut attendre de nous, quelle est la mission de l'homme, quelle est sa vocation et quelle est sa place sur terre. Et c'est pourquoi Jésus parle en parabole, parce que sinon on pourrait dire que Jésus n'avait qu'à dire clairement ce qu'il avait à dire, et ça aurait été plus simple que d'écrire d'une façon un petit peu codée, et qu'il faille en plus acheter des livres comme celui-là de Jean-Marie Ploux pour essayer de comprendre le sens des paraboles. Mais en fait non, les paraboles n'ont pas une signification unique, elles nous plongent dans un univers et nous fait nous poser des questions et nous interroger quant à notre vie, quant au sens de la vie, quant à ce que Dieu peut attendre de nous, quant à notre relation aux autres, quant à la relation à la grâce, à la temporalité, au royaume de Dieu, au pardon, à la culpabilité et à ce que nous pouvons attendre de Dieu, du monde, de la vie et des autres. Et ainsi Jean-Marie Ploux se promène comme un promeneur heureux, comme un amateur de l'écriture, et se promène dans les paraboles et se laisse inspirer par elles. Et donc, chaque parabole qu'il cite dans un ordre qu'il a choisi, chaque parabole, il la cite et ça l'invite à penser à un texte de l'Ancien Testament, à mettre en rapport avec un autre passage de l'écriture, et ça l'invite à penser ensuite à une autre parabole, alors que du coup, il va expliquer également à sa manière, ou plutôt dont il va s'inspirer. Parce que je ne crois pas qu'il ait la prétention d'expliquer les paraboles, mais plutôt de mettre à jour les différents enjeux qui sont présents dans ces paraboles. Ce qui est beau dans les paraboles, justement, c'est que chacun y entre avec ce qu'il est. Et ce qui fait que chacun fera une lecture différente des paraboles. Parce que nous ne sommes pas tous les mêmes, et l'Évangile en général, la Bible en général, et les paraboles en particulier, sont des textes qui rentrent en dialogue avec le lecteur. C'est-à-dire quand on le lit, on se questionne, je vous l'ai dit, et également ces éléments symboliques présents dans la parabole, eh bien chacun va projeter dessus des choses qui le seront propres en fonction de son expérience particulière. Et du coup, la parabole lui dira des choses différentes. Pour prendre un exemple, si je prends la parabole du semeur, où donc, a priori, le semeur, c'est Dieu qui sème, et nous, nous sommes le terrain invité à recevoir cette semence qui nous est offerte par Dieu, à la laisser croître en nous pour pouvoir la redistribuer. Qu'est-ce qui est semé par Dieu ? Eh bien, chacun répondra différemment, parce que, en fait, chacun ne reçoit pas les mêmes choses de Dieu ou de la vie, tout simplement. Et donc, cette semence qui est donnée, ce sont les grâces. Et chacun peut dire dans sa vie quelles sont les grâces particulières qu'il a reçues. L'un, ce sera peut-être d'avoir une bonne santé, un autre d'avoir même de l'argent, un autre d'avoir une foi remarquable, un troisième d'être travailleur et courageux, ou un autre encore d'avoir une famille remarquable, des enfants admirables, ou une épouse formidable. Enfin, chacun peut dire quelles sont ses grâces, et la question c'est qu'est-ce qu'il va en faire ? Est-ce qu'il est capable de se prendre ses grâces comme pour lui, d'accepter la grâce pour la faire grandir en lui et pouvoir redistribuer au monde, multiplier en quelque sorte ses grâces reçues ? Et du coup, chacun répondra différemment. Et je dirais même que la parabole du semeur, qui est une des plus belles paraboles de l'Évangile, est même une parabole qu'on pourrait lire tous les jours, enfin tous les matins, tous les soirs, voire toutes les heures, parce qu'à chaque fois, dans sa vie, à chaque heure, on a une grâce particulière, et la question c'est de savoir ce que l'on en fait. Et donc voilà, ces paraboles sont des textes dont le lecteur est aussi le héros. Et Jean-Marie Plou nous aide à briser la glace, qui parfois semble incompréhensible, parce que ces paraboles ont quand même été écrites il y a 2000 ans dans un contexte culturel qui n'est pas le nôtre, et tout le monde n'a pas une culture biblique suffisante pour comprendre aussi ce dont il est question et les allusions inévitables qu'il y a par rapport à la foi d'Israël, par rapport à l'Ancien Testament ou d'autres choses. Et donc, il brise la glace, vous disais-je, et permet d'entrer dans ce qui est en question dans ces paraboles pour pouvoir se l'approprier. Alors je vous disais, bien sûr, les symboles bibliques sont courants et tout le monde ne les connaît pas. Donc Jean-Marie Plou, je vous disais, n'écrit pas là un livre destiné aux exégètes aguerris, n'écrit pas un livre là pour les grands théologiens qui savent déjà tout, qui pensent tout savoir. C'est un livre pour tout le monde, pour le croyant qui simplement s'essaye à la lecture de l'Évangile et qui a parfois du mal à s'y retrouver. Mais néanmoins, même, je vous ai dit, mais moi qui pensais tout savoir, eh bien j'ai trouvé des petites perles, et je vais vous en citer quelques-unes pour vous illustrer mon propos. Prenons justement la parabole du semeur. Et si on regarde de très près, il est écrit évidemment que le semeur sorti pour semer, il sème une semence donc qui préexiste. Et ça c'est intéressant parce qu'on peut dire que effectivement le semeur, a priori c'est Dieu, ou c'est le Christ qui sème la parole, mais en même temps cette semence préexiste à l'acte des semailles. Et on pourrait dire que c'est exactement comme cela que le Christ finalement prêche une parole qu'il n'invente pas, mais il prêche une parole déjà existante, c'est-à-dire qu'il a prise dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans les prophètes, dans les psaumes et dans la Bible, et plus particulièrement, non pas dans la partie légaliste de la Bible, mais dans la partie prophétique et poétique. Et donc voilà, cette image du semeur qui sème une semence qui lui préexiste, c'est une idée à laquelle j'avais jamais pensé. Mais en même temps, il est écrit littéralement « le semeur sorti pour semer ». Alors ce « sorti » intrigue beaucoup Jean-Marie Plou, et il a raison, parce que quand on lit la Bible, il faut toujours prendre le temps de s'interroger sur les détails de l'écriture, sur les détails du texte, sur tout ce qui nous est dit, et ce « sorti » l'intéresse particulièrement. Parce que on peut l'entendre dans la lignée de ce que j'ai dit tout à l'heure, en disant « le semeur sème une parole préexistante, donc peut-être celle de l'Ancien Testament », mais en même temps, pour semer de cette façon-là, il sort. C'est-à-dire qu'il est obligé de sortir, peut-être, d'un certain judaïsme ritualiste et légaliste, et donc il sort d'une certaine façon de ce monde pharisien dans lequel il avait été élevé, et que c'est d'autant plus de cette manière qu'il sort d'un judaïsme ritualiste qu'il peut du coup redistribuer une parole qui certes préexiste, mais qui prend un accent tout à fait nouveau, parce qu'il est mis dans un contexte différent. Donc ce semeur qui sort pour semer est intéressant, mais on peut l'entendre aussi qu'il sort non seulement du peuple juif, mais il sort aussi du coup pour aller vers ceux auxquels les juifs ne s'adressaient pas. Ça, c'est quelque chose de particulier que l'on voit arriver progressivement dans la mission du Christ, où au départ, il se croit être invité simplement à parler pour les juifs, pour les enfants d'Israël, comme il dit, et progressivement il découvre que sa mission est invitée à être une mission universelle et à s'adresser pas simplement aux juifs ou pas simplement aux bons croyants ou aux bons pratiquants, mais aussi à s'adresser à tout le monde, c'est-à-dire aux non-juifs, aux païens, et puis aussi aux pécheurs, aux prostituées, à ceux qui sont rejetés et exclus de la société, c'est-à-dire les péagers et les ceux dont personne ne veut. Et donc Jésus sort effectivement de son sérail de gens bien pensants pour aller s'adresser à ceux qui ne sont pas du sérail et qui sont vis-à-vis de l'extérieur, mais c'est à eux qu'il va donner une parole qui n'est pas une parole totalement neuve, mais en même temps il leur permet d'avoir accès à une parole qui était déjà présente dans le message juif, c'est-à-dire qu'il prend le message de la révélation de l'Ancien Testament et il l'amène renouvelé dans un contexte nouveau. Ou alors on peut aussi prendre encore, au sens encore plus fort, le sorti, pour dire si c'est le Christ qui sort pour semer, on peut l'entendre comme la kénose de l'hymne de Philippiens 2 dans Paul, où le Christ lui-même sort de sa divinité pour aller à la rencontre de l'humanité. Le Christ, sans péché, parfait, uni à Dieu, etc., aurait pu rester qu'avec des gens bien, entre guillemets, et rester de se draper dans sa perfection et sa divinité, mais il a choisi d'aller vers les plus pauvres, vers les prostituées, vers les péagers, vers ceux dont personne ne voulait. Et donc Jésus est sorti aussi pour aller vers les autres, et il a sorti. Je dirais, on peut dire que l'incarnation, c'est en fait cette divinité qui sort de son ciel pour aller jusqu'à la terre. Et donc ce grain, ce semeur effectivement qui sort, donne quelque chose qui vient du ciel et qui va jusqu'à la terre, et on peut le comprendre plus que comme le simple fait d'accepter les chances de la vie, mais comme une image même de l'incarnation. Bon, vous voyez, c'est quand même des images qui sont extrêmement, extrêmement riches, et il y en a comme ça des tas. Tenez, je vous en donne une autre à propos de cette petite image extrêmement difficile, où quand Jésus dit que lorsqu'on a tout fait quelque chose, on ne dit simplement « je n'ai été qu'un serviteur inutile ». Eh bien, personne n'aime ça, parce qu'on considère ben, si, que Dieu a besoin de serviteurs. Et sans arrêt, les paraboles disent d'ailleurs que Dieu ne peut pas faire tout seul, mais qu'il invite les vignerons à travailler pour lui. Il invite dans les ouvriers de la 11e heure des gens à venir travailler dans sa vigne, donc il a besoin d'ouvriers. Mais néanmoins, l'idée que propose Jean-Marie Plou et qui se défend, c'est de dire que derrière le mot serviteur inutile, c'est pas le mot serviteur qu'il faut lire, mais c'est le mot esclave. Doulos, ça veut dire l'esclave. Et que Dieu n'a que faire d'esclaves. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin d'esclaves. Dieu a besoin d'amis, il y a besoin de personnes qui travaillent avec lui, de collaborateurs, mais il n'a pas besoin d'esclaves. L'esclave ne lui sert à rien. Et ce serait ça en lien avec ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean, quand il dit à ses disciples, je ne vous appelle pas serviteur ou esclave, mais je vous appelle ami, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais moi je vous appelle ami, parce que tout ce que je sais de Dieu, je vous l'ai dit. Donc voilà une autre hypothèse qui m'a semblé particulièrement intéressante, mais bon, ce sont des petites coquetteries que j'ai trouvées à gauche et à droite dans ce livre de Jean-Marie Plou, et qui montrent que par-delà une explication assez simple finalement, et je vous disais consensuelle, des paraboles où les grands enjeux sont exposés sans beaucoup de surprise, voire d'originalité, eh bien on trouve par-ci par-là effectivement des idées tout à fait passionnantes. Donc voilà ce livre que je ne peux que recommander à tout le monde, parce que chacun peut, je crois, y trouver des choses à son niveau. Jean-Marie Plou, Plouix, Écoute la lumière, une lecture des paraboles de Jésus, et c'est aux éditions Salvator. Eh bien, je vous souhaite de bonnes lectures et vous dis à bientôt.